Bonjour Antoine de Galbert.
Bonjour.
Merci de nous recevoir ici à la Maison Rouge, votre maison. Vous êtes collectionneur et il y a 14 ans, presque jour pour jour, a ouvert une fondation à Paris qui porte le nom de Maison Rouge. C'est un lieu qui a accueilli plus d'une centaine d'expositions thématiques, toutes très différentes, souvent très personnelles, dont la plupart d'ailleurs a rencontré un franc succès. Et c'est avec étonnement donc, et parfois incompréhension, qu'artistes institutionnels et amateurs du lieu ont appris votre décision de fermer la fondation d'ici la fin de l'année. Mais on n'y est pas encore. Et la dernière exposition ouvre ses portes aujourd'hui même autour d'un thème parfaitement approprié, c'est l'envol. Et ça, on y reviendra évidemment dans un deuxième temps. Juste un mot, puisque je parlais il y a quelques instants de cette fondation qui vient d'ouvrir à Porquerolles, la fondation Carmignac. Vous-même êtes un fondateur de fondation. Vous en avez entendu parler ? Vous avez eu l'occasion d'y aller ?
Écoutez, j'y suis même allé, puisque par des proches, je vis parfois là-bas. Et j'ai trouvé ça formidable, vraiment formidable. J'ai trouvé d'abord que le concept d'écologie culturelle, d'aller à la campagne, d'aller dans un cadre pur et même sauvegardé, puisque c'est un parc national, c'était une très bonne idée. Et pour quelqu'un qui a des grands moyens, c'est assez original, parce que les grands capitaines d'industrie, les grands financiers, ont plutôt tendance à aller dans les grandes villes pour être vus, pour vendre leur marque, en quelque sorte. Donc là, il y a un très beau geste. Et j'ai trouvé que l'architecture, la réhabilitation de cette villa qui a été construite par Henri Vidal, enfin c'est pas une villa, c'était une maison de l'architecte, a été très 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 réussie, qui a des très beaux points de vue sur la mer, sur le jardin. Donc voilà, bravo vraiment.
À saluer. Mais cela dit, cette fondation fait partie d'un certain nombre d'autres. Effectivement, voilà, vous citez les grands capitaines d'industrie qui sont plutôt dans des villes et avec des lieux architecturaux visibles, parfois même très visibles. Comment regardez-vous, vous qui vous êtes installé il y a 15 ans maintenant à Paris, mais un peu à l'écart, on est du côté de la Bastille, mais on est assez loin de tout le ramdam parisien, on va dire. Comment regardez-vous cette multiplication des fondations privées ? Alors, il y a Vuitton, il y a Prada, il y a Pinault.
Je crois d'abord qu'il faut dissocier toutes ces fondations, parce que ce sont des fondations qui sont dans des échelles très différentes. Entre LVMH et moi, par exemple, je ne vous cache pas que ça n'a... C'est incomparable. Il y a un monde politique, financier, il y a des écarts. Enfin, c'est pas comparable. Alors, le fait qu'il y en ait beaucoup qui ouvrent, je pense que c'est largement lié aux lois de défiscalisation, qu'on a dites à Yagon, hein. Et donc, ça génère petit à petit des créations. Moi, j'ai pas tellement d'avis. Je pense que plus on est de fous, plus on rigole. Enfin, on souhaite tous qu'il y ait des lieux qui ouvrent avec un peu de subjectivité, qui échappent un petit peu aux excès du marché, aux excès de la mode, aux m'as-tu vu, aux postures sociales. Donc il faut que tous ces gens inventent un petit peu de nouveaux systèmes. Et c'est pour ça que je trouve Carmignac très intéressant, vraiment. Alors Lafayette aussi, d'ailleurs, parce que Lafayette, ils ne sont pas allés non plus dans un immense bâtiment construit par un architecte star. Ils ont commandé un chantier important à un architecte star, mais il y a quelque chose de plus original dans la production des œuvres. Ils ne sont pas là à exposer leur Jeff Koons ou leur Damien Hirst.
Antoine de Galbert, est-ce que la nature d'une fondation est différente de celle d'un musée, sachant qu'on suppose qu'il s'agit de montrer des œuvres, d'une collection en l'occurrence, ou de plusieurs collections, mais vous faites aussi, vous, appel dans vos expositions à des œuvres de collection ailleurs, parfois même de musées.
Ouais. Alors, au fond, on peut dire que montrer une œuvre à un public, c'est le même métier. C'est-à-dire que le Louvre fait le même métier que Carmignac, que Carmignac fait le même métier qu'une galerie d'art. Mais on ne peut pas ignorer qu'il y a des différences juridiques, structurelles, organisationnelles, administratives. Et évidemment, une fondation d'entreprise, ce n'est pas la même chose qu'un musée. Il y a quand même d'immenses différences. Mais au fond, moi, quand je fais une exposition avec mon équipe, je me sens exactement comme un directeur de musée, enfin, ou de galerie. Fondamentalement, on fait tous le même métier. Défendre une œuvre et la montrer, c'est le même métier. Après, il y a des financements privés, publics, il y a des fondations d'entreprise, il y a des fonds de dotation, il y a toutes sortes de statuts. Au fond, est-ce que c'est important? Peut-être, en termes d'économie culturelle, c'est certainement important, mais on montre tous des œuvres, finalement. Hein. Le sujet important, c'est l'utilité publique. Mais finalement, à partir de quel moment, quand on est d'utilité publique? Donc après ça, on peut en discuter, on peut dire, ben non, telle boîte qui vend ses chaussures en même temps n'est pas d'utilité publique, telle petite structure qui a un merveilleux directeur, visionnaire, intelligent, est d'utilité publique, même une galerie privée. Vous voyez, donc c'est un long débat, mais bon, qui est un peu ennuyeux, peut-être à 7h du matin.
Vous parlez de la capacité, ou plutôt la qualité même, d'être visionnaire. Est-ce que vous diriez que pour être un bon collectionneur, il faut avoir du nez, il faut avoir un bon œil? Si je vous pose cette question, c'est que Jean Loisy, qui est au Palais de Tokyo, mais qui a travaillé avec vous, Antoine de Galbert, a dit à propos de vous, il existe l'oreille absolue et le nez parfait, lui, donc vous, il a l'œil intégral.
Alors, de la part de Jean Loisy, moi, j'étais honoré, j'étais fier. Vous imaginez pas. Je pense qu'on n'a pas le droit de dire de soi... Si on a de la vision ou pas, enfin, ça n'a aucun sens, ce serait une prétention absolue. Et par ailleurs, c'est le temps. C'est comme le vin, là. C'est le temps qui va dire si quelqu'un a eu une vision ou pas, s'il a eu raison ou pas. Simplement, je pense qu'il faut oser exprimer sa subjectivité. Et peut-être qu'il faut avoir un petit peu de mauvais goût. C'est-à-dire que avoir le goût avant les autres, c'est à ce moment-là, on a toujours, tous les visionnaires, qu'ils soient dans la politique, dans l'économie, sont toujours critiqués, ridiculisés, etc., parce qu'ils ont trop tôt. Donc il faut oser être critiqué, il faut oser exprimer quelque chose que les autres ne comprennent pas. Mais malheureusement, c'est pas si simple, parce que il y a des gens qui ont vraiment mauvais goût, et dont le goût reste mauvais ad vitam aeternam. Donc voilà, tout ça... Je crois que c'est un peu prétentieux de parler de tout ça. Mais en tout cas, ce que dit Jean, alors je vous avoue que j'étais extrêmement touché parce que lui-même a un nez extraordinaire.
Vous continuez d'acheter ?
Toujours, oui, oui. Enfin, quand je peux, quand je suis... Vous savez, la seule limite, c'est l'argent.
C'est les moyens.
Que vous ayez dit 10 euros ou 10 millions, en fait, il y a toujours plus cher, il y a toujours... C'est une usine à désir, tout ça, et... Donc il faut avoir les sous, comme on dit.
Et quand vous vous entichez, Antoine de Galbert, d'un artiste, peut-être un inconnu, peut-être inconnu, peu importe, est-ce que vous aimez avoir plusieurs œuvres de ce même artiste, ou c'est une œuvre en particulier?
J'ai aucune règle.
Il n'y a pas de règle.
Et surtout, je m'entiche jamais d'un artiste. Je m'entiche d'une œuvre parce que j'aime les artistes, comme j'aime les charpentiers ou les notaires. Mais je pense que l'amitié que j'ai avec un artiste, c'est avec leur œuvre. C'est leur œuvre qui nous lie d'une amitié. C'est pas eux, c'est pas l'humain qui...
Ah, mais quand je parlais de l'artiste, c'était l'œuvre, hein,
bien sûr. Non, mais bien sûr. Mais en tout cas, c'est vraiment ça. C'est vraiment, on s'en tiche d'une œuvre.
Il y a quelques mois, en janvier, vous avez offert votre collection de coiffes, 500 coiffes, plus de 500 coiffes, au musée des Confluences à Lyon. Mmh. Est-ce que ça veut dire que être collectionneur, ça veut dire aussi que de temps en temps, il faut pouvoir se délester?
Mais en fait, il faut pouvoir. Alors, dans les processus d'acquisition, de collection, etc., il y a un moment où on ne peut pas faire mieux. Il y a un moment où il me manque que la coiffe qui est seulement au Met ou au Louvre. Et puis, il y a un moment où on a besoin de passer à autre chose, comme dans la vie, de tourner des pages, comme dans le roman de Quignard, La Villa Amaya. Il faut de temps en temps oser l'avenir. Et puis par ailleurs, cette collection, elle est formidable, mais elle devenait tellement énorme que je pouvais plus m'en occuper. C'est-à-dire qu'il aurait fallu que j'ouvre un lieu que pour elle. Et j'ai aucune envie de devenir le musée du chapeau. Donc il y a quelque chose dans la possession que les gens comprennent pas toujours quand on donne, parce que bon... C'est qu'en fait, ces objets seront toujours à moi, d'une manière ou d'une autre. Et j'aurai sur ma table de nuit le catalogue, et ils s'en occuperont vachement mieux que moi. Parce que vous savez, les objets, ils s'abîment. Moi, je suis une personne privée, donc je n'ai pas des conservateurs, des gens qui mettent des poudres et des talcs et des antis, je ne sais quoi. Donc en fait, je suis ravi de faire ça. Alors j'ai un petit pincement au cœur, parce que c'est... Vous savez, ça me fait penser, quand on a des enfants... Moi, j'ai eu des enfants qui ont grandi, qui sont devenus adultes. Et il y a un âge où ils partent. Vous voyez, cet âge de 18 ans, après le bac, tout ça. On est à la fois triste, on est très triste, parce qu'on ne sait plus... Il manque quelqu'un, il manque une présence, il manque une assiette. Mais en même temps, on est heureux de les voir partir et de les voir grandir. Et donc, c'est exactement pareil. C'est au revoir les enfants.
Vous êtes dans cet état d'esprit, Antoine de Galbert. Non pas par rapport à... aux coiffes que vous avez laissées au musée de Confluence, mais par rapport à la Maison Rouge.
Ça, c'est un peu différent, parce que la Maison Rouge, d'abord, c'est une charge énorme pour moi. et j'ai pas des moyens éternels. Donc il y a quand même une réorganisation patrimoniale, parce qu'en me concernant, qu'il faut quand même dire, parce que c'est quand même très lourd. Et puis il y a en plus une usure. Alors non pas, c'est vrai, il y a des côtés extraordinaires, l'équipe qui est extraordinaire, avec qui on a fait tout ça, l'aventure humaine, le public, enfin, mais il y a aussi quelque chose qui fait qu'on a l'impression quand même de se répéter. Et la vie est très courte, et quand vous avez plus de 60 ans, si je ne vais pas rester jusqu'à 80 ans à faire des expositions. Donc j'ai envie de changer, c'est mon droit, c'est-à-dire que ça peut choquer, ça peut attrister, c'est le cas, j'ai plein d'amis qui sont tristes, qu'on ferme parce qu'on a su s'inventer un vrai public, presque 50 000 personnes par expo actuellement. Mais c'est un droit, et j'ose parfois dire que je suis presque aussi heureux d'arrêter que j'ai été heureux d'ouvrir. Et puis l'inconnu, quoi. Le passé, c'est la mort. L'avenir, c'est la vie. Mais c'est l'inverse de ce qu'on croit.
De toute façon, Antoine de Galbert, on peut considérer que la Maison Rouge et la façon dont vous avez conçu cet endroit, vous dites que vous avez su, en tous les cas, c'est un constat, inventer un public, que cette maison s'est inventée un public. Il se trouve que cet endroit est aussi un lieu qui est à la fois central, aujourd'hui il existe en tant qu'institution, et un peu marginal, c'est-à-dire à la fois engagé dans l'art et toujours dégagé des contingences du marché, même des institutions en général. Est-ce que vous l'avez pensé, voulu, comme ça, presque comme un contre-pouvoir?
Je n'ai rien pensé, vous pouvez demander à toute mon équipe, il n'y avait aucune stratégie. Je me suis contenté de faire ce que je faisais à Grenoble, parce que j'ai eu une petite galerie pendant 10 ans en province, ce n'était pas facile. J'ai appris là-bas, j'ai continué simplement à exposer ce que j'avais envie de faire.
C'est ce que vous
faites. Et
donc,
ce qui est génial, c'est ce qu'il faut dire, parce que finalement, c'est le seul témoignage vraiment intéressant, c'est quand on peut amener un grand nombre à sa subjectivité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vérité. C'est pas parce que vous allez faire une starlette américaine ou japonaise que vous serez meilleur.
Vous pensez que c'est la subjectivité la clé du succès ?
Je pense que c'est le fait qu'une personne privée ose. Moi, j'ai des amis, par exemple, qui ne sont pas dans l'art, qui n'aiment pas tellement ce qu'on fait ici, qui ne comprennent pas, qui trouvent que c'est violent, que c'est je ne sais quoi. Mais ils viennent. Ils viennent parce qu'ils viennent suivre quelqu'un. Vous voyez ? Et donc, c'est ça qui est important. C'est que dans le réseau public, parce qu'on est public, on est d'utilité publique, on est des entrées payantes. Dans les réseaux publics, on peut être privé. Et c'est un peu ce qui manque parfois dans les grandes institutions qui sont quand même formatées, qui ont fait les mêmes écoles, des historiens de l'art, etc. On manque de gens qui... Et que vous parliez de Jean Loisier, par exemple, je trouve que c'est quelqu'un qui a cette liberté-là. Il y a quelques... personne en France qui ont cette liberté.
Vous parlez d'usure, vous parlez aussi de liberté. On a pu lire ici ou là dans des entretiens que vous avez donnés, Antoine de Galbert, une critique, une réserve, même parfois une critique à l'encontre de l'évolution du marché de l'art, que vous qualifiez de trop cher, vous trouvez que c'est trop dur, et c'est un constat aussi que vous faites, puisque vous avez été galeriste, vous le disiez, c'est trop dur pour les galeries d'art. Et puis aussi, et j'aimerais bien que vous nous parliez de ça, souvent vous dites, il ne faut pas être pressé en art, reprenant d'ailleurs une phrase de l'exergue du catalogue de l'exposition que vous aviez fait en 2014.
C'est un discours justement lié à ce que vous dites. C'est-à-dire que si les prix montent, si on parle que d'argent, etc., ça stresse. Moi, je connais des collectionneurs malheureux parce qu'ils ne peuvent plus acheter, ils ne savent plus quoi acheter. Je pense que c'est la comparaison avec le vin, c'est vraiment une belle comparaison. Une œuvre d'art, c'est comme du vin. C'est comme du vin, c'est le temps. Comme disait Jean Genet, c'est le peuple des morts qui juge la pérennité d'une œuvre. C'est le temps qui fait les œuvres. C'est pas nous.
Oui, mais pourquoi le marché de l'art aujourd'hui ne suit-il pas cette maxime ?
Parce que d'abord, l'argent ne donne pas nécessairement accès à l'intelligence. C'est la première chose. Il y a des pauvres cons et des riches cons. Non, mais voyez, c'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on a accès à une pensée brillantissime. Et puis il y a dans cet art contemporain un aspect très parvenu, quand même très réussite, qui a des bons côtés parce que c'est bien de réussir, mais qui a des très mauvais côtés puisque c'est la posture sociale. Aux États-Unis, on existe et on fait du business que si on a des œuvres très chères au mur. Ils sont encore plus loin que nous dans cette bêtise. Hein.
Vous pensez qu'on peut renverser les choses ?
Moi, en fait, c'est pas l'argent qui me choque, parce que je vais vous dire qu'un Rembrandt vaut 500 millions, je trouve ça très bien, enfin, c'est normal. c'est le déséquilibre et l'absurdité, par exemple, qu'un jeune artiste valent des fortunes et valent plus cher qu'une commode Louis XVI. Enfin, je dis n'importe quoi. Mais il y a une incohérence notoire. Et dans la constitution de la valeur des œuvres, il y a énormément de pollution, de communication, de... Enfin, vous connaissez tout ça. Mais après, je critique pas tout. Et vous voyez, je vous dire une chose, c'est que je suis le premier à être heureux quand j'achète une œuvre 10 sous, qu'elle en vale 20. Après tout, je suis ravi parce que j'ai des enfants, j'ai... Pourquoi pas, hein. Mais c'est l'absurdité de... Ce sont les immensités financières et cette globalisation comme l'économie, quoi, c'est tout. Mais voilà, j'ai pas de quoi en parler 10 heures, parce que tout le monde est d'accord avec moi, sauf les 200 personnes qui grouillent là-dedans.
Le fait, Antoine de Galbert, que la Maison Rouge ferme fin 2018, en même temps qu'est annoncée l'ouverture à la Bourse du Commerce du nouveau temple de l'art contemporain, c'est-à-dire l'installation de la fondation de François Pinault. Est-ce que ça vous fait un pincement au cœur ou vous en
non,
fichez?
Non, pas du tout, ça n'a aucun rapport. Les lieux ferment, les lieux ouvrent, je pense que c'est l'histoire du monde de l'art, et on oublie très vite les lieux d'ailleurs. Non, ça n'a aucun rapport, non.
Vous savez ce que ça va devenir, la Maison Rouge?
Écoutez, j'ai signé un compromis, mais c'est trop tôt pour...
Pour en dire quoi que ce soit.
Je fais tout pour que ce soit plutôt un lieu culturel, évidemment. Mais j'ai pas très envie que ça devienne un lieu d'exposition, parce que ce lieu a une âme, quoi, une histoire déjà, même si elle est brève, 15 ans, c'est bref. Mais on a une vraie histoire, et ça soigne de partout. La culture des autres, les passages, les gens intelligents qui sont passés, qui ont fait des conférences, qui ont exposé. C'est comme une pile, cette maison. Pour moi, c'est un être. Et d'ailleurs, je dis souvent... que finalement les aides disparaissent, et pourquoi pas la Maison Rouge, parce que c'est un être, c'est pas un immeuble, c'est un être, la Maison Rouge.
Le lieu ferme, mais la fondation continue. Alors, vous avez des envies, Antoine de Galbert?
Oui, enfin, la fondation est d'utilité publique, c'est-à-dire qu'elle est pérenne, elle est dotée d'un capital inaliénable, et voilà, elle va continuer de manière un peu plus modeste, mais je vais pouvoir faire des tas de choses.
En particulier créer un fonds d'urgence pour donner un coup de pouce aux
artistes.
Voilà,
donc ça je sais pas comment l'exprimer encore, mais je voudrais pouvoir aider des gens. D'ailleurs, j'aime pas dire aider, mais une fois de plus, il n'y a pas d'autre
donner
mot.
Donner un coup de pouce, ça va
donner
pour,
un
ça
coup
vous
de
va
pouce,
mieux.
C'est assez joli, oui. Comme ça, dans des urgences, dans des subjectivités, dans des rencontres, il y a tellement de gens extraordinaires qui viennent me voir souvent, ou qui viennent nous voir à la Maison Rouge. Donc là, j'ai envie de faire des choses comme ça. Et puis, j'ai dit aussi très officiellement que je vais aider le musée de Grenoble, qui est
votre
ma ville natale, et qui est un musée magnifique. Et donc, avec le directeur Guy Tozaton, on va essayer d'acheter quelques œuvres ensemble pour le musée.
Et donc, ouvre aujourd'hui, quand même, il faut le dire, puisque c'est fin, mais c'est un début, Antoine de Galbert, l'ultime exposition de cette Maison Rouge, qui a pour titre l'envol, l'item.
Ou le rêve de voler.
Oui, mais ça, je voulais vous laisser le dire.
Ouais. Donc ça, en deux mots, c'est une exposition... qu'on a pensé avec trois amis, trois proches. En fait, on est deux couples, c'est Aline Vidal et moi, et puis Bruno de Charme et Barbara Safarova. Donc c'est une bande d'amis, en fait, ou de proches, et on se réunissait souvent pour des raisons, et on s'est dit un jour, tiens, si on faisait une exposition. Et ça, c'était bien avant que je décide de fermer la Maison Rouge. Et donc on parlait de l'envol, du vol, et on a commencé à cogiter, à s'envoyer des images, on a décidé qu'à chaque fois que l'un de nous quatre allait proposer une œuvre, il fallait que les trois autres l'acceptent. Donc c'est assez amusant et ça nous a enrichi parce que les autres nous proposent des œuvres qu'on connaît pas nécessairement. Et donc c'est vraiment une expo entre amis, une œuvre commune qui s'est très bien passée puisqu'on arrive au vernissage sans trop s'être bouffé le nez.
Comment dire ? Vous gardez le sourire.
Et voilà, et donc... Alors quand j'ai décidé de fermer, je leur ai proposé que ce soit la dernière expo de la Maison Rouge. Et c'est pour ça que c'est... Et bien sûr, l'envol, bon, il y a toutes les métaphores et ce qu'on peut imaginer, parce que c'est un peu l'idée qu'on doit s'envoler malgré tout, qu'on ferme pas pour s'enfermer, je sais pas où, qu'on ferme pour faire autre chose. Hein. C'est pas un enterrement, quoi.
Alors, on va laisser les titres de l'actualité passer,
okay.
Antoine de Galbert. Vous retrouvez après, et si vous le voulez bien, vous allez faire le choix de quelques œuvres. Il y en a 200, hein, je crois, dans l'exposition.
Oui, à peu près. Oui.
Bon, on va s'arrêter sur 5-6 œuvres que vous avez choisies et que vous allez nous commenter. On se retrouve tout à l'heure. Il est 7h30 sur France Culture. Et on repart aller à la Maison Rouge, dans le quartier de la Bastille, à Paris, où on retrouve notre invité Antoine de Galbert, directeur de la Fondation
Président.
La Maison Rouge.
Il y a une directrice, très bien.
Julie directeur, c'est président, oui. En effet, président, fondateur et collectionneur. On est devant une œuvre, puisqu'on a promis à nos auditeurs qu'on irait visiter avec vous quelques-unes des œuvres de cette exposition L'Envol, qui ouvre ses portes aujourd'hui même. On se trouve devant, allez, un vélo avec des ailes, taille humaine, hein, taille
normale. Ça, c'est une œuvre extraordinaire. C'est un artiste de l'art brut, c'est-à-dire quelqu'un de modeste qui s'appelait Gustave Mesmer, qui est mort, et qui, dans son petit village, construisait, il avait plusieurs vélos et il les équipait avec des ailes volantes et des choses. Il était certain d'ailleurs qu'il allait voler, hein, puisque cette exposition regroupe des artistes aussi bien simples ou modestes, ou on peut dire fous, même si ce mot me déplaît.
Donc, mais capable de rêver.
Qui sont sûrs qu'ils vont voler, et puis ça regroupe aussi d'autres artistes qui sont des artistes dits intellectuels ou contemporains, qui eux sont dans la poésie du rêve de voler. Donc il y a deux ailes, un petit peu comme des, on peut dire comme une sorte d'aile volante, qui sont trouées, d'ailleurs on ne sait pas pourquoi.
Oui.
Et puis des morceaux de plastique et des sortes de pavillons directionnels. Enfin, c'est extraordinaire.
Il y a tout ce qu'il faut pour y arriver.
C'est extraordinaire, hein. Parce qu'à la sortie, on voit ça comme une œuvre d'aujourd'hui, quoi. On dirait une œuvre d'art contemporain. C'est pour ça que tous ces cloisonnements entre les formes d'art, finalement, dans cette exposition, disparaissent un petit peu.
Oui, d'ailleurs, on va avancer, Antoine de Galbert. D'ailleurs, vous l'avez conçu avec vos trois partenaires,
ouais.
Vos trois co-commissaires. Vous l'avez conçu comme une déambulation totalement libre.
Et effectivement, un espace de déambulation où on perçoit les thèmes, mais ils ne sont pas trop pédagogiques, trop haché, parce qu'on voulait pas d'une expo avec des phrases partout au plafond et des chapitres et des... Donc c'est quand même une balade, c'est une vraie balade visuelle.
Alors on n'est pas à vélo, on est à pied, mais on vient de quitter le vélo volant et on s'approche d'œuvres photographiques qui sont assez extraordinaires. Il y a des photos de Lev Borodulin et une photo d'Alexandre Rodchenko. Ouais. Ce sont des sauts, plongeons dans une piscine, sauts dans le vide, extraordinaire. Alors il se trouve qu'on est aussi dans un week-end consacré au sport sur France Culture.
Oui.
Au foot, mais plus largement au sport, oui. Et ça tombe très bien qu'on voit ces œuvres-là, qui sont des œuvres assez sublimes.
Alors là, c'est typiquement un des chapitres, c'est-à-dire qu'on retrouve quand même certains chapitres qu'on a appelé l'exploit, qui regroupe la gymnastique, les acrobates, les équilibristes, et tous ces gens qui finalement recherchent la sensation de voler. Alors cette photto de Rodchenko qui vient de Moscou, est extraordinaire.
On voit une boule dans le ciel, en fait.
Parce qu'on a la sensation que le cadrage est presque un hasard, quand on se demande comment l'artiste a pu cadrer ça comme ça. Et cette boule est en fait un corps qui... Donc c'est un plongeur, acrobate. Et donc on a choisi que des œuvres où les corps volent comme ça. Enfin, c'est très clair. Là, c'est vraiment... Il y a des thèmes au premier degré aussi dans cette exposition.
Oui, c'est pas un problème.
On s'en cache pas, oui.
On s'en cache absolument pas.
Moi, je fais des expositions pour que ma mère les voie, même si elle ne les voit plus.
Alors, il y a encore des bruits de marteau, parce qu'évidemment, nous sommes au moment où vous installez, toutes les équipes sont en plein travail. Et justement, on s'approche d'une œuvre où là, les équipes sont en train de finir cette installation. C'est une installation des Kabakov. J'aimerais bien que vous nous en disiez un petit mot, Antoine de Galbert.
Ah, donc ça,
si on arrive à s'entendre, hein, parce que...
C'est une installation du couple Kabakov, qui vivait en Union soviétique dans les années de plomb. Et beaucoup de leurs œuvres reconstituent des univers de la Russie de cette époque-là. Donc là, c'est une petite chambre un peu modeste, un peu tristounette. Et sur la chaise face au bureau, il y a une sorte... Ce sont des ailes en plumes. Remarquez que les ailes en plumes, c'est toujours en plumes, fort à couper. Ce sont des ailes posées sur la chaise et qui sont évidemment la métaphore de l'envie de fuir, hein, de l'envie de la dissidence, en fait.
On continue et on ne va pas aller très très loin. Vous allez nous emmener, Antoine de Galbert, voir une œuvre qui est assez petite. Alors il y a des œuvres de différentes tailles. Hein. Là, l'installation, la chambre des Kabakov est bien plus grande, par exemple, que cette petite œuvre qui est une sculpture. C'est une sculpture de Rodin, mais elle est sous cloche. Et si on se penche, on voit dans un reflet le film qui est projeté, ouais, juste au-dessus. Et non, d'ailleurs, il n'est pas projeté juste au-dessus. On voit un film.
Non, il est projeté. C'est un reflet. Oui. Alors ça, c'est une petite œuvre que j'adore qu'on
a
découvert.
Mais c'est un reflet d'un film de danse, quand même.
Voilà. On a découvert cette sculpture chez des gens, donc c'est une collection privée anonyme, bien sûr. Et c'est un tout petit plâtre de Rodin. On sent presque ses doigts, là, comme un Giacometti, presque, et qui représente le fausse de danser par Nijinsky. Donc là, c'est la partie sur la danse, parce que la danse, il y a quelque chose de très quand on voit cette photo qui représente un danseur de Cunningham, on comprend bien que c'est l'envol aussi. Hein. Et voilà, donc c'est une petite œuvre qu'on a évidemment protégée, mise sous cloche, mais qui est magnifique de tendresse et de fragilité.
Et donc je reste sur mon idée de film qu'on voit en transparence voilà. Comme un reflet.
Et là, c'est un
qui
peu
est
un
derrière
hasard.
Nous, en fait, qui est là, oui. sur un écran de télévision, où on voit film. Le fileur danser.
Voilà,
avec
c'est un film très connu, mais là, c'est vrai que c'est un peu un hasard, mais je ne devrais pas le dire. Il y a un reflet qui arrive juste derrière la petite sculpture qui représente Nijinsky. C'est un vrai miracle.
Mais bon. C'est un vrai miracle d'installation.
Voilà.
Ben voilà, mais on signale aux éditeurs.
On n'a pas fait exprès.
Mais parfois, le hasard fait bien les choses,
oui.
Vous savez bien.
Oui.
On va continuer d'avancer. Vous allez nous parler d'une œuvre d'une japonaise.
Nobuko Tsuchiya, qui est une artiste pour moi magique. Et cette énorme, cette sorte de, on dirait un placenta gonflé comme ça, posé sur un socle. Est très extraordinaire pour moi parce que j'ai l'impression qu'elle incarne un petit peu le résumé de cette exposition, c'est-à-dire qu'on est dans une notion de vol puisqu'il y a de l'air, mais malheureusement ça ne peut pas s'envoler.
Il y a une œuvre ultime, en tous les cas, que vous avez placée à la fin de l'exposition qui pourrait presque venir vous contredire, Antoine de Galbert. On va s'approcher.
Vous avez parlé de la cage qui termine l'exposition.
Exactement.
Donc ça, c'est une simple cage qu'on a trouvée chez un brocanteur, d'ailleurs en Italie, qui est très jolie. Et simplement, elle est vide et la porte est ouverte, donc on peut interpréter ça comme on veut, mais c'est vraiment le fait que quoi qu'on fasse, même quand on est dans la passion ou dans des choses formidables, parce que ce qu'on a fait ici, c'était formidable, il faut jamais se sentir enfermé dans quoi que ce soit, c'est-à-dire qu'on... C'est une porte ouverte.
Merci beaucoup, Antoine de Galbert.
Merci à vous, je suis ravi de...
L'Envol, c'est aujourd'hui que ça ouvre. C'est jusqu'au 28 octobre, date de la fermeture définitive de la Maison Rouge, mais date de votre propre envol. Et on va se quitter d'ailleurs avec un envol à propos qu'on peut entendre dans les toilettes de la Maison Rouge
tout
en ce moment.
Oui.
Volare, Dean Martin. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Volare, oh, oh. Cantare, oh, 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 let's fly way up to the clouds, away from the maddening crowds. We can sing in the glow of a star that I know of.
Et dans une poignée de secondes, il sera 7h41 sur France Culture, l'heure de la fabrique médiatique.